Il fallut croupir 6 mois. Il y eut d'abord le printemps, qui rajeunit et dilata la pestilescence, puis l'été, qui la fit bouillir et l'exalta. Une végétation pisseuse, galeuse, hypochondriaque et vindicative se déclara dans le jardin, où coururent des légions d'insectes noirs. Des fleurs, autrefois semées par des mains réfractaires à toute bénédiction valable, et qui eussent détérioré le flair d'un dogue, balancèrent sur l'étroit sentier leurs cassolettes habitées par des pucerons effrayants. Ensuite, comme si tout cela n'était pas assez, une maison colossale, babélique, se dressa tout à coup dans le voisinage immédiat. Une armée de maçons qui ne connaissaient pas le saint jour secoua le plâtre sur ce paysage qu'il eût été si louable de désinfecter. Pendant les 2 derniers mois, 80 fenêtres en construction, percées dans des murs impies dont le pauvre lambeau de ciel était offusqué de plus en plus, tamisèrent obstinément l'asphyxie et le désespoir. La chaux en poussière envahit les meubles, les vêtements, le linge, poudra les têtes et les mains, brûla les yeux. On en mangea et on en but. Vainement on essayait de se calfeutrer quand on se croyait assez fort pour affronter un instant la fermentation impétueuse de l'intérieur. Le dentifrice implacable se glissait par toutes les fentes, comme les cendres fameuses qui ont étouffé Pompéi, et s'épandait invinciblement par les chambres closes. La chaleur, qui fut excessive cette année-là, fit paraître les nuits encore plus atroces que les jours. On vit alors galoper partout des punaises à frimas, des punaises blanchâtres et amidonnées, qui réalisèrent le dernier degré de la dégoûtation et de l'horreur. Nul remède à toutes ces choses, nulle plainte à essayer, nulle réclamation à entreprendre. C'était bien connu. Les héros qui font bâtir sont peut-être encore plus adorables que les demi-dieux qui ont déjà bâti, et l'indigent est une négligeable crotte entre l'une et l'autre majesté. Le Deutéronome des goujats vainqueurs, le code civil et carnassier que Napoléon promulgua, ne daigne pas remarquer seulement son existence, et cela répond à tout. Léopold et Clotilde prenaient la fuite aussi souvent qu'ils pouvaient. Ils allaient dans les églises qui sont aujourd'hui les seules cavernes où les fauves au cœur saignant se puissent réfugier encore. Ils se promenaient dans la paix sublime des cimetières, s'agenouillant çà et là sur les tombes en ruine des plus vieux morts, dont quelques-uns, sans aucun doute, avaient autrefois crucifié leurs frères. Puis, pour retarder autant qu'il était en eux l'exécrable instant du retour, ils s'asseyaient devant un café et regardaient passer les fantômes. Plus rarement, lorsqu'un peu d'argent tombait sur eux, ils se ruaient à la campagne, lisant ou causant, une journée entière dans les coins les plus écartés des bois. Mais il fallait reprendre bientôt la puanteur, la suffocation, l'insomnie, l'épouvante, le vomissement, le chagrin noir au fond d'un puits noir, et les âmes vêtues de patience dérivaient dans l'ombre. Souvent seule à la maison, Clotilde songeait à son enfant sous la terre. De tout son courage, elle tâchait habituellement d'écarter l'image précise, l'image terrible, mais l'obsession était la plus forte. C'était d'abord un point, rien qu'un point au bord du cœur, qui lui coupait brusquement la respiration. Un peu après, son aiguille s'échappait de ses doigts, sa jolie tête se renversait en arrière dans un mouvement d'agonie, ses mains se crispaient, se contracturaient au-dessus de son visage. « Fiat voluntas tua », gémissait-elle, et sa détresse était infinie. Si elle faisait assez pitié à celui qui regarde tourner les mondes pour qu'un flot de larmes vînt la secourir et que le supplice diminuât, elle en demeurait étourdie, somnolente, hallucinée. « Ne va pas dans ce coin noir, mon enfant mignon. Ne touche pas à ce grand couteau qui pourrait te percer ton petit cœur. Prends garde au méchant homme qui t'emporterait. Viens dormir sur mes genoux, mon amour malade. » Prononçait-elle vraiment ces mots ou reparaissait la trace des anciens tourments? Elle n'eût pu le dire, mais il frappait son oreille comme des sons que sa bouche aurait proférés. Et le souvenir de cet être mort à 11 mois se confondait tellement dans son esprit avec l'idée lustrale de la pauvreté qu'elle le revoyait auprès d'elle, âgée de 5 ans. On ne sait pas ce que les âmes peuvent souffrir. Au très vieux temps, il était recommandé, dans les affres de la torture, d'invoquer le bon larron et de rester immobile, de ne pas bouger, de ne pas remuer les lèvres, quelle que fût l'angoisse. Mais cela, ô Dieu, c'est le secret de vos martyrs, c'est la méthode sainte qui n'est pas facile aux chrétiens privés de miracles. Le partage de la multitude n'est-il pas d'expirer de soif au bord de vos fleuves? Enfin, on put quitter l'endroit effroyable, la cité gravéolante et moisie, où, d'ailleurs, venait de s'abattre, attirée par l'odeur de mort, une congrégation de prostituées, dont le propriétaire avait été ébloui. C'était le comble, et l'épreuve devenait impossible par son excès même. Un recouvrement inespéré permit tout juste à ces orphelins de leur propre enfant de s'installer hors de Paris, dans un très humble pavillon de Parc Lavallière, et d'y respirer en paix quelques jours. Voilà donc leur vie changée. Il n'y a plus de cauchemars, plus de peste, plus de vermine. On est sorti du nuage de plâtre. Mais ce qui reste est bien assez pour qu'on y succombe. Tout à l'heure, au moment où les rattrapaient ce trop véridique récit, et lorsque Clotilde, attendant son cher mari, pleurait sur les pieds du grand crucifix, l'unique objet de quelque valeur qu'il leur resta, la douce créature avait sans doute revu, dans l'irradiation torrentielle et synoptique de la pensée, ce qui vient d'être raconté en tant de mots. Elle l'avait même revu, c'était bien certain, d'une manière plus poignante, plus détaillée. Cette amertume, cependant, aurait pu ne pas être sans douceur si la condition présente avait été moins dure et le très prochain avenir moins effrayant. Au contraire, toutes les menaces étaient sur eux. La vue de Léopold s'affaiblissait de jour en jour, et le sphinx de la subsistance quotidienne se faisait indévinable de plus en plus. Sur le conseil d'un éditeur qui lui faisait de chiches avances, il venait d'entreprendre une divulgation littéraire de son mystérieux et tragique pèlerinage au centre africain. Raisonnablement, on pouvait espérer le succès de la tentative, mais quelle besogne pour un malheureux qui n'avait jamais écrit. Son étonnante femme l'aidait de toutes ses forces, de toute l'intuition de son âme, écrivant sous sa dictée, l'aidant à porter, à classer les matériaux, lui faisant remarquer parfois de lumineuses corrélations qui amplifiaient les épisodes jusqu'à leur donner un sens d'humanité générale, rectifiant avec une spontanéité incroyable la pensée par l'expression et révélant au narrateur la magnificence évocatrice de certaines images qu'il avait lui-même conçues. Autant qu'il était possible, ce fut en une nouvelle manière l'enluminure continuée pour Léopold qui ne cessait de bénir et d'admirer sa compagne. Malheureusement, ce travail d'érection d'une pyramide par 2 enfants n'avançait qu'avec une extrême lenteur. Trop souvent aussi, il fallait tout lâcher pour se mettre à la recherche d'un morceau de pain. Ils songèrent à consulter Marchenoir, qui ne se montrait plus depuis quelque temps. Il venait même de lui écrire, lorsque Druide, éperdu, vint leur annoncer sa mort. Ce fut une catastrophe énorme, une désolation qui les écrasa. Et quelle pitié sur cette mort, quelle pitié! Seul, dénué de tout, n'ayant pas même obtenu un prêtre, ce chrétien des catacombes n'avait pu compter que sur un miracle pour être fortifié au dernier instant. On n'avait pas été averti du danger, et tout le monde arriva trop tard. Il n'y eut personne pour recueillir les dernières paroles de celui qui avait si grandement parlé toute sa vie et que les hommes refusèrent si obstinément d'écouter. Assassiné par la plus féroce misère, il eut son repos dans le même lieu que l'enfant de Léopold, qui ne l'avait précédé que de quelques mois, et les 2 sépultures très humbles furent peu éloignées l'une de l'autre. Le rude sommeil des gisants ne fut pas troublé par le bruit des pas de ceux qui convoyèrent le nouveau dormeur. Oh non, une mouche les eut comptés, mais ils pleurèrent véritablement. La pitié haute et surnaturelle, qui assume le remords des implacables, paraît être la transfixion la plus douloureuse. Une demi-douzaine de navrés, qui ne parlaient pas, sentit en ce jour, à une profondeur extraordinaire, que la seule excuse de vivre, c'est d'attendre la résurrection des morts, comme il est chanté au symbole, et que c'est une vanité terrible de s'agiter sous le soleil. Où trouver une intellectualité plus dévorante, plus formidablement pondérée, plus capable de broyer et d'arrondir tous les angles de la table de Pythagore, mieux faite pour vaincre ce qui paraît invisible que le lamentable qu'on portait en terre. La force qu'on pouvait croire plus que suffisante pour dompter les monstres de la sottise, où les cétacés pervers s'étaient épuisés contre des sacs d'excréments, contre des gabions de tripes humaines. Réduit à vivre hors du monde, il y avait vécu comme les Turcs hors de Byzance, menace permanente et effroyable pour une société en putréfaction. Mais voilà qu'on en était enfin délivré. Quelle joie pour les vendus, pour les vendeurs, pour les capitulards de toutes les forteresses de la conscience, pour les chiens qui remangent ce qu'ils ont vomi, et les truies lavées qui se replongent aussitôt dans les immondices, pour les hongres ou les chameaux employés au déménagement d'un peuple, qui fait descendre, avec précaution, ses lois et ses mœurs par l'escalier en colimaçon de l'abîme. On allait sans doute illuminer. Pourquoi donc pas? Dans tous les cas, il pouvait compter sur une belle presse, pour la première et dernière fois, l'écrivain hardi, que le lâche silence de tous, à commencer par les plus fiers, avait étouffé. La racaille des feuilles publiques allait pouvoir s'accroupir sur lui. Rien à craindre désormais. Les sagittaires ne lancent pas de flèches du fond des tombes, et les glapissements de la réclame leur sont inutiles. Léopold, ivre de douleur, se disait que c'était tout de même prodigieux qu'il ne se fût jamais rencontré un seul homme parmi ceux qui décernent le potin pour dénoncer au crachat de la multitude cette iniquité. Pas un, c'était à confondre. Des trois ou quatre autour desquels flottait encore un semblant de quelque chose, aucun, fût-ce dans l'ivresse et pour soutenir un pari dément, n'avait crié. J'entends n'être pas complice d'une aussi salope conspiration. Il me chaud très peu que tel ou tel bonze ait été rossé plus ou moins fraternellement par ce Caïn à qui nul ne peut reprocher une vilenie de plume et qui est, sans contredit, l'un des grands écrivains français. Quelque prostituée que je sois, je me vomis à la fin de toujours entendre chuchoter qu'un magnanime qui n'a pas vénéré nos lupanars doit être frappé dans le dos par des escarpes aux pieds de velours et des maquereaux tremblants. Je vais donc m'offrir l'héroïque fredaine de parler pour celui dont les paladins et les gladiateurs osent à peine murmurer le nom. Je rugirai même, s'il est en mon pouvoir de rugir, et il ne sera, sacre bleu, pas dit que j'aie attendu que ce vaillant crevât de misère pour danser ostensiblement autour de son corps avec les papous et les cannibales, enfin rassurés. Druide, qui gémissait dans les mêmes griffes que Léopold, se rappela tout à coup, on ne sait comment viennent ces choses, un poème de Victor Hugo qui l'avait émerveillé. Un astronome annonce une comète colossale qui ne pourra être vue, avec d'excessives angoisses, que par une lointaine postérité. Le prophète, montré au doigt tel qu'un maniaque dangereux, meurt bientôt après dans l'ignominie. Pluie d'années sur sa tombe. Le pauvre homme n'est plus qu'un petit tas d'ossements émiettés, dont personne ne se souvient. Son nom, gravé dans la pierre, a été rongé alternativement par les deux solstices. Les honnêtes gens qu'il terrifia et qu'il abattirent comme une rosse jouissent maintenant d'une paix profonde, car ils sont eux-mêmes, pour la plupart, couchés dans le voisinage. Mais l'heure est venue, la minute, la seconde calculée, il y a si longtemps par cette poussière, et voici que l'immensité s'illumine et qu'apparaît le monstre de feu traînant dans le ciel une chevelure de plusieurs milliards de lieues. Si l'homme est plus noble que l'univers parce qu'il sait qu'il meurt, l'analogie sidérale évoquée par le cerveau du peintre grandiose de la populace de Byzance n'avait ici rien d'extravagant. Certaines œuvres de Marche Noire, lancées naguère dans les froids espaces et que la scélératesse imbécile avait cru fourrer en même temps que lui sous la terre, éclateraient certainement un jour, et pour plus d'un jour, sur les fronts épouvantés d'un siècle nouveau, à la manière d'une vaticination redoutable qui annoncerait la fin des fins. Seulement, alors, il ne serait plus en la puissance d'aucun mortel de consoler la victime, de serrer amicalement cette main mangée, de verser l'électuaire de la bonté dans cette famélique bouche d'or, désormais absente, de donner le spectacle de la compassion fraternelle à ces tristes yeux dont l'orbite même aurait disparu. « Ne pas rendre justice aux vivants », écrivait Hello. On se dit, oui, sans doute, c'est un homme supérieur. Eh bien, la postérité lui rendra justice. Et on oublie que cet homme supérieur a faim et soif pendant sa vie. Il n'aura ni faim ni soif, au moins de votre pain et de votre vin, quand il sera mort. Vous oubliez que c'est aujourd'hui que cet homme supérieur a besoin de vous, et que, quand il se sera envolé vers sa patrie, les choses que vous lui refusez aujourd'hui et que vous lui accorderez alors lui seront inutiles désormais, à jamais inutiles. Vous oubliez les tortures par lesquelles vous le faites passer dans le seul moment où vous soyez chargé de lui. Et vous remettez sa récompense, vous remettez sa joie, vous remettez sa gloire à l'époque où il ne sera plus au milieu de vous. Vous remettez son bonheur à l'époque où il sera à l'abri de vos coups. Vous remettez la justice à l'époque où vous ne pourrez plus la rendre. Vous remettez la justice à l'époque où lui-même ne pourra la recevoir de vos mains. Car il s'agit ici de la justice des hommes, et la justice des hommes ne l'atteindra ni pour la récompense, ni pour le châtiment, à l'époque où vous la lui promettez. À l'époque où vous la lui promettez, la rémunération et la vengeance, les hommes ne pourront plus être pour le grand homme ni rémunérateur ni vengeur. Et vous oubliez que celui-là, avant d'être un homme de génie, est d'abord et principalement un homme. Plus il est homme de génie, plus il est homme. En tant qu'homme, il est sujet à la souffrance. En tant qu'homme de génie, il est mille fois plus que les autres hommes sujet à la souffrance. Et le fer dont sont armés vos petits bras fait des blessures atroces dans une chair plus vivante, plus sensible que la vôtre, et vos coups redoublés sur ces blessures béantes ont des cruautés exceptionnelles, et son sang, quand il coule, ne coule pas comme le sang d'un autre. Il coule avec des douleurs, des amertumes, des déchirements singuliers. Il se regarde couler, il se sent couler, et ce regard et ce sentiment ont des cruautés que vous ne soupçonnez pas. Quand nous étudions ce crime vis-à-vis du ciel et de la terre, nous sommes en face de l'incommensurable. Et expecto resurrectionem mortuorum, murmura Druide, le visage ruisselant de larmes. Oui, vraiment, il n'y a que cela. Clotilde, se souvenant de sa première conversation avec l'ami des tigres captifs, se demandait si les bêtes féroces ne seraient pas admises à témoigner pour leur avocat défunt contre la malice affreuse des hommes. Telles étaient les pensées des uns et des autres au bord de la fosse, où ce fou de l'île de France, ayant voulu dire on ne sait quoi, fut étranglé par les sanglots. Parc-la-Vallière est une des banlieues les plus banales de Paris, banale et morose au-delà de toute expression. L'amende fameuse de Louis XIV y posséda réellement un parc, dit-on, lequel existait encore, il y a 30 ou 40 ans, mais dont il ne subsiste plus le moindre vestige. Le domaine dépecé a été vendu, par lons innombrables, à une éligible postérité de la veultaille des putains du roi, descendance balourde et avaricieuse qu'il serait puéril d'interroger sur les trois personnes divines. Le village obèse, qui a remplacé la futaie somptueuse d'autrefois, est une caque de petits propriétaires serrés et aplatis les uns sur les autres, au point, semble-t-il, de ne pouvoir faire aucun usage de leurs œufs ni de leur laitance. Anciens domestiques devenus capitalistes à force de gratter leurs maîtres, ou commerçants de faible calibre retirés enfin du négoce, après avoir vendu à faux poids des marchandises avariées pendant la moitié d'un siècle, ils donnent en général l'exemple des cheveux blancs et de quelques vertus accroupies recommandées par l'expérience. Le reste des notables se recrute parmi les employés de divers bureaux parisiens, idolâtres de la nature qu'exalte l'odeur du fumier et qui combattent les hémorroïdes par les étapes. À l'exception des acacias ou des platanes rôtis de l'avenue principale, on chercherait vainement un arbre net dans ce pays qui fut un bois. L'un des signes les plus caractéristiques du petit bourgeois, c'est la haine des arbres. Haine furieuse et vigilante qui ne peut être surpassée que par son exécration célèbre des étoiles ou de l'imparfait du subjonctif. Il ne tolère en frémissant de rage que les fruitiers, ceux qui rapportent, mais à la condition que ces végétaux malheureux rampent humblement le long des murs et n'offusquent pas le potager, car le petit bourgeois aime le soleil, c'est le seul astre qu'il protège. Léopold et Clotilde étaient là, très près du cimetière de Bagneux, et ils avaient quelques mètres de terre cultivable devant leur maison. Ces deux circonstances avaient déterminé leur choix. Bien que privés d'ombre et grillés la moitié du jour, ils se réjouissaient d'un peu d'air fluide et d'un semblant de tranquillité. Oh, rien qu'un semblant, et qui n'était pas pour durer, car ils ne se voyaient pas au bout de leur peine et sentaient toujours sur eux la main qui écrase. Au début, l'entourage ne fut pas hostile. Sans doute, ils paraissaient être de très petites gens, ce que nul consistoire de larbin ou de boutiquier ne tolère, mais il se pouvait, après tout, que ce ne fût qu'un artifice, une finesse de malin, et qu'au fond, les nouveaux locataires eussent plus de galettes qu'ils n'en laissaient voir. Puis, la haute allure de l'un et de l'autre, qui faisait, par comparaison, rentrer aussitôt tout ce petit peuple dans le crottin, déconcertait et dépaysait les juges. Il fallait d'abord se rendre compte, n'est-ce pas ? On aurait toujours le temps de les assommer. Une surveillance vétillarde cauteleusement s'organisa. Ce fut dans ces circonstances qu'ils connurent le ménage Poulot. C'étaient les voisins d'en face, locataires, eux aussi, d'une maison dont les fenêtres bâillaient sur leur jardin et d'où le regard pouvait plonger jusque dans leur chambre. Mammifères quelconques, supposèrent-ils, mais qui montrèrent, dès le premier jour, une sorte de bienveillance, déclarant qu'il fallait s'entraider, que l'union fait la force, qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi, etc. Que tels étaient leurs principes, et rendant effectivement de petits services que le désarroi de l'installation forçait d'accepter. Les deux endoloris, peu capables d'observation attentive, n'eurent aucune alarme de ces prévenances qui leur paraissaient très simples, et méconnurent tout d'abord la vulgarité ignoble de leurs obséquieux voisins, que, bénévolement, ils imaginèrent avantagés de quelque appréciable supériorité sur les animaux. Ceux-ci manœuvrèrent de telle sorte qu'ils parvinrent à se faufiler, à se faire admettre, alors même que le besoin de ne plus les voir commençait à se faire impérieusement sentir. Le Poulot avait un cabinet d'affaires et avouait, non sans faste, une antérieure étude d'huissier, dans une ville peu éloignée de Marseille. Sans expliquer toutefois l'abdication prématurée qu'il avait ravie à ce ministère, car il n'avait pas vieilli dans l'exploit et ne portait pas plus de 50 ans. Le digne homme, flegmatique et empessé, avait à peu près la jovialité d'un ténia dans un bocal de pharmacie. Cependant, lorsqu'il avait bu quelques verres d'absinthe en tête-à-tête avec sa femme, ainsi qu'on l'apprit bientôt, ses pommettes flamboyaient en haut du visage, comme de falaises par une nuit de méchante mer. Alors, du milieu de la face, dont la couleur faisait penser bizarrement au cuir d'un chameau de Tartarie, à l'époque de la mue du poil, jaillissait une trompe judaïque dont l'extrémité, ordinairement filigranée de stries violâtres, devenait soudain rubiconde et ressemblait à une lampe d'autel. Au-dessous fuyait une bouche niaise et impraticable, encapuchonnée de ces broussailleuses moustaches que certains recors abhorrent, pour donner une apparence de férocité militaire à la couardise professionnelle de leur institut. Rien à dire des yeux qu'on aurait pu comparer tout au plus pour leur expression à ceux d'un phoque assouvi quand il vient de se remplir et que l'extase de la digestion commence. L'ensemble était d'un modeste pleutre accoutumé à trembler devant sa femme et tellement acclimaté dans le clair-obscur qu'il avait toujours l'air de projeter sur lui-même l'ombre de lui-même. Sa présence eût été inaperçue et indiscernable sans une voix de toutes les bouches du Rhône, qui sonnait comme l'olifant sur les premières syllabes de chaque mot et se prolongeait sur les dernières, en une espèce de mugissement nasal à faire grincer les guitares. Quand le ci-devant requéreur de la force publique vociférait dans sa maison tel ou tel axiome indiscutable sur les caprices de l'atmosphère, les passants auraient pu croire qu'on parlait dans une chambre vide ou du fond d'une cave, tant la vacuité du personnage était contagieuse. Or M. Poulot n'était rien, absolument rien, auprès de Mme Poulot. En celle-ci paraissait renaître le mastic des plus estimables trumeaux du dernier siècle. Non qu'elle fût charmante ou spirituelle, ou qu'elle gardât, avec une grâce polissonne, des moutons fleuris au bord d'un fleuve. Elle était plutôt crapaude et d'une stupidité en cul de poule qui donnait à supposer des ouailles moins bucoliques. Mais il y avait, dans sa figure ou dans ses postures, quelque chose qui retroussait incroyablement l'imagination. La renommée lui attribuait, comme dans la métempsychose, une existence antérieure très employée, une carrière très parcourue, et il se disait, au lavoir ou chez les marchands de vin, qu'elle n'était pas mal conservée tout de même, en dépit de ses 40 ans, pour une femme qui avait tant fait la noce. Il n'en fallut rien moins que la rencontre de l'huissier pour fomenter la péripétie dont s'affligèrent tant de Garnaud et qui fit répandre tant de pleurs amères dans les saladiers de la rue Cambronne. Terré quelques semaines avec son vainqueur dans un antre de la rue des Canettes, non loin du poussier de l'illustre Nicolardeau, ils avaient fini par se marier à Saint-Sulpice pour mettre fin à un collage ravissant mais prohibé dont les principes religieux de l'un et de l'autre condamnaient l'ivresse. Ainsi purifiés de leur scorie et traînant un hypothétique sac d'écus, on les créditait d'une provisoire et impersonnelle considération à Parc-la-Vallière, où ils étaient venus, peu de temps après, sucer le miel de leur lune. Cette considération, cependant, n'allait pas jusqu'à leur faire prendre pied dans une famille estimable. Madame Poulot, qui ne parvenait pas à se remettre d'avoir épousé quelqu'un, avait beau crier à tout instant « mon mari » à propos de n'importe quoi, comme si ces trois syllabes avaient été un sésame, tout le monde la voyait toujours sur l'ancien trottoir, et on se souvenait d'autant mieux du sale métier de son compagnon que celui-ci tripotait actuellement ça et là d'obscures chicanes. Peu favorisé de la vocation hérémétique, il fallait donc, à toute force, que l'audancière ulcérée se contentât de la société des bonnes, des cuisinières ou des concubines de croque-mort plus ou moins souillasses des alentours, qu'elle invitait généreusement à boire chez elle pour leur faire admirer son alliance et les éblouir de 25 000 francs que son mari lui avait reconnus. Souvent, l'ex-mandarine du Plumard condescendait, ainsi qu'une châtelaine propice, à des confabulations dans la rue, avec les crieurs de poissons ou les vendeurs de légumes, dont le mercantilisme s'exaltait jusqu'à lui passer la main sur la croupe. C'était sa manière de notifier à tous les superbes son indépendance et sa largeur d'âme. Cheveux au vent, dépoitraillés, paquetés d'un jupon rouge fendu par derrière en éventail, nonchalamment appuyé sur la roulotte, parfois même à califourgon sur le brancard, et les bas en spirale tombant sur des pantoufles éculées, elle s'abandonnait alors, crasseuse et fière, aux regards explorants du populo. Ses propos d'ailleurs étaient sans mystère, car elle gueulait, s'il est permis de le dire, autant qu'une vache oubliée dans un train de marchandises. Le mari, beaucoup moins altier, faisait les chambres, la cuisine, lavait la vaisselle, cirait les chaussures, repassait le linge, le reprisait même au besoin, sans préjudice de ses affaires contentieuses qui lui laissaient heureusement assez de loisirs. Les immigrants, occupés surtout de guérir les épouvantables plaies de leur cœur, ignorèrent assez longtemps ce poème. Ils ne parlaient à personne et n'avaient encore rencontré que les poulots, dans lesquels ils auraient fallu marcher pour paraître ne pas les voir. Puis, comme tous les évadés, ils pensaient avoir laissé derrière eux les démons de leur infortune, et ne s'étaient pas avisés de prévoir qu'ils galoperaient en avant comme un furier. La première chose qu'on remarquait à Madame Poulot, c'était les moustaches. Non la brosse virile, foisonnante et victorieuse de son époux, mais un tout petit blaireau sur la commissure, un soupçon de peluche d'oursonne qui vient de naître. Il paraît qu'on s'était battu pour ça. Le pigment énergique de ce poil convenait si bien à la sauce au capre de sa figure, lavée seulement de la pluie des cieux et que coiffait en nid de bécasse une sombre toison ennemie du peigne. Les yeux, de nuances imprécises et d'une mobilité inconcevable, dont le regard défiait la pudeur des hommes, avaient toujours l'air de vendre des moules dans un pavillon des Halles. La forme exacte de la bouche échappait aussi à l'observation, tellement cette embrasure de l'obscénité et de l'engueulement se travaillait, se contorsionnait et se démenait pour obtenir ces moues précieuses qui caractérisent la plus succulente moitié d'un officier ministériel. Mal bâti au demeurant, carré des épaules, privé de gorge et de taille, son buste, autrefois pétri par des mains sans art, devait avoir, sous une chemise très rarement savonnée, la plastique d'un quartier de veau roulé par terre, que des chiens, pressés de fuir, auraient abandonné en le compissant. Par là s'expliquait sans doute l'usage fréquent des peignoirs, reliques des anciens trousseaux, dont l'austérité conjugale avait mitigé la transparence. La même cause, très probablement, justifiait la vélocité habituelle de sa translation d'un lieu à un autre quand elle allait par les rues, le front tourné résolument vers les astres, comme si elle avait espéré de cette allure une heureuse modification de sa colonne vertébrale, que courbait, peut-être un peu plus qu'il n'aurait fallu, le joug pesant des nouveaux devoirs. À cela près, elle était, à ses propres yeux, du moins la plus excitante princesse du monde, et il fallait renoncer de bonne grâce à trouver une femme qui s'estimât plus exquise. Quand elle s'accoudait à sa fenêtre et regardait dans l'espace, en se massant avec douceur le gras des bras, cependant que le mari rinçait les vases, elle semblait dire à toute la nature « Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Où est-elle, la fleur mignonne, la pomme d'amour, le petit caca de Vénus ?» Ah ah, vous n'en savez rien, espèce de mufle, tas de marsupiaux, graines de cornichons. Mais regardez-moi donc un peu pour voir, c'est moi-même que je vous dis, c'est Bibiche, c'est la loulotte à son loulou, c'est la poulotte à son gros poulot. Oui, je vous écoute, mes petits cochons, je le crois bien qu'il vous en faudrait de ce nanon-là. Vous ne vous embêteriez pas, mais voilà, il n'y a pas mèche, on est des femmes honnêtes, des petites saintes vierges du bon Dieu, quoi. Ça vous la coupe, je ne dis pas non. On s'en bat l'œil gauche avec une petite patte de merlan. Regardez, mais ne touchez pas, c'est la consigne. L'heureux poulot était-il cocu ou ne l'était-il pas? Ce point ne fut jamais éclairci. Quelque invraisemblable que cela puisse paraître, on croyait généralement qu'elle gardait pour lui seul tous ses trésors. Telle était du moins l'opinion de la tripière et du vidangeur, compétentes autorités qu'il eût été assez téméraire de démentir. Ce qu'il y avait de sûr, c'est que les absences de l'huissier, forcées quelquefois de mobiliser son entregent, ne déterminaient en sa femme qu'une bénigne et réparable désolation. Elle chantait alors, sûre d'elle-même, quelques-unes de ces sentimentales romances dont raffolent ordinairement les cœurs effeuillés, dans les maisons closes, et que Gazouille, aux heures lourdes et inoccupées de l'après-midi, les Ariane du volet poireau pour le rafraîchissement du promeneur valétudinaire. Virtuose, pleine de bonté, elle ouvrait sa fenêtre toute grande et faisait au pays entier l'aumône de son nostalgique ramage. L'amour sans retour grayonnait un peu, sans doute, et le pâle voyageur sentait vaguement le torchon. Par instant, il faut l'avouer, des voisins rebelles à la poésie se calfeutraient. Était-ce là une raison pour sevrer les autres? On ne muselle pas les nobles cœurs. Le rogome connaît son prix, et l'oiseau bleu ne se laisse pas couper les ailes. Mais seul ou non, on était toujours sûr d'entendre son rire. Tout le monde l'avait entendu, tout le monde le connaissait, et ce rire passait avec raison pour une des curiosités de l'endroit. L'accès en était si fréquent, si continuel, qu'il fallait sans doute moins que rien pour l'exciter, et on n'arrivait pas à concevoir qu'une pareille cascade sonore pût sortir d'un gosier seulement humain. Un jour, entre autres, le vétérinaire constata, l'œil braqué sur son chronomètre, que le déroulement de la poulie durait en moyenne 130 secondes, phénomène qu'un physiologiste aurait peine à croire. Pour ce qui est de l'effet sur le tympan, qui pourrait le dire? Les images ici font défaut. Néanmoins, ce bruit extraordinaire aurait pu être comparé au bondissement d'une toupie d'Allemagne dans un chaudron, mais avec une puissance de vibration infiniment supérieure et qu'il eût été difficile d'évaluer. On l'entendait par-dessus les toits, de plusieurs centaines de mètres, et c'était, pour quelques penseurs suburbains, l'occasion sans cesse renouvelée de se demander si ce cas exceptionnel d'hystérie relevait de la trique ou de l'exorcisme. On vient de le dire, Léopold et Clotilde, installés à peine, ignoraient toutes ces belles choses. Comme par l'effet d'un enchantement, depuis leur arrivée, le cri de la chamelle avait été à peine entendu. Cependant, les poulots, qu'ils avaient avalés plusieurs fois déjà, leur puaient au nez, singulièrement. Léopold surtout manifestait une impatience assez voisine de l'indignation la plus excitée. « J'en ai tout à fait assez de ce joli couple, » dit-il un soir. « C'est intolérable d'être ainsi relancé chez soi par des gens à qui on ne doit pas un sou. En vérité, il me semble que notre dernier propriétaire était moins immonde, avec sa crapule ouverte, que ses voisins de malheur avec leur goujatisme dissimulé. Cette Guenon ne te parlait-elle pas tout à l'heure de son chapelet qu'elle prétend réciter sans cesse parce qu'elle a vu ici deux ou trois images religieuses? Je voudrais bien le voir, cet objet de sa piété. J'avoue que je ne l'imagine pas très bien sur cette devanture de farceuse. Pourquoi ne les jetterai-je pas tout simplement à la porte quand ils reviendront? Qu'en penses-tu, cher ami? Je pense que cette femme n'a peut-être pas menti et que tu n'as pas cessé d'être violent, mon Léopold. Ces gens-là, j'en conviens, ne me plaisent guère. Qui sait pourtant, les connaissons-nous? » Léopold ne répondit rien, mais il était au moins évident que le doute charitable insinué par sa femme n'entrait pas en lui. Celle-ci n'insista pas et tomba elle-même dans un silence triste, comme si elle avait vu passer de sombres images.